DW. Pulsation.
C'est un pays dont on parle finalement très peu dans les médias internationaux. Pourtant, depuis des années, le pays survit grâce à l'aide internationale. L'ONG Human Rights Watch accuse les États-Unis et l'Union européenne, par exemple, de fermer les yeux sur la répression brutale consécutive à la grave crise de 2015, née de la décision du président de l'époque, Pierre Nkurunziza, de briguer un troisième mandat anticonstitutionnel. Une crise politique qui a fait oublier ou aggraver une autre crise, celle qui touche l'éducation des jeunes Burundais. Nous en parlons dans ce nouveau numéro de Pulsation avec Philippe Tissard de l'association Burundi Kids. Bonjour Philippe.
Bonjour Bob.
Bienvenue dans ce studio de la radio internationale allemande, la DW. Alors, Burundi Kids est une association à but non lucratif fondée depuis 2003. Elle soutient des personnes particulièrement défavorisées dans l'éducation, la santé, la protection des enfants et des femmes et lutte aussi contre la pauvreté. Comment ce travail est fait concrètement sur le terrain là-bas au Burundi?
Depuis la fondation de notre association, on travaille à travers un partenaire local et on a ensemble développé des programmes dans le secteur de l'éducation. Ça veut dire qu'on a construit des écoles et on finance ces écoles de fonctionnement. Il y a encore avec d'autres partenaires un hôpital et des programmes de santé. Il y a la protection de l'enfant et de la femme, ça veut dire on fait des plaidoyers, on a des centres d'accueil pour les enfants de la rue, des enfants en difficulté en général pour les femmes en particulier. Et le quatrième secteur, c'est le développement rural. Donc on soutient des agriculteurs en s'organisant en coopérative et de développer des nouveaux chemins de découlement de leurs produits.
Vous avez parlé des écoles. Dans les écoles que votre association accompagne, plus de 1000 élèves, filles et garçons, reçoivent chaque année une formation sanctionnée par un diplôme. Ils apprennent à devenir assistants, par exemple en pharmacie ou en laboratoire, à soigner les malades ou à travailler dans les banques et les assurances. Mais qui est-ce qui paye justement les frais de scolarité de ces Burundais-là?
Bon, c'est différent. Il y a, d'abord, il y a plusieurs écoles. Il y a des écoles dans les villes, et il y a des écoles en dehors des villes et aussi qui sont placées vraiment dans le monde rural. En ville, ce sont des fonctionnaires. Il y a des gens qui travaillent en tant qu'enseignants dans les ministères, à l'État, qui sont des médecins, qui sont agriculteurs, pêcheurs, pour ceux qui sont proches du lac. Et à l'intérieur, ce sont aussi des agriculteurs qui font tout pour payer la scolarité de leurs enfants. Parce qu'ils savent que seulement avec l'éducation et le savoir, leur enfant aura une chance d'abord pour sortir de là où ils sont.
Et de la pauvreté. En 2013, le gouvernement burundais a introduit une réforme qui allongeait de 3 ans la durée de l'enseignement primaire, soit 9 ans en tout. Le but de cette réforme était surtout d'assurer une meilleure culture générale à tous les élèves, même ceux qui n'atteignaient pas, par exemple, l'enseignement secondaire. Mais 11 ans plus tard, on a l'impression que cette réforme n'a pas abouti, avec des résultats moindres. Est-ce que vous avez conscience de cet état de fait?
Je crois que les avis sur cette réforme sont partagés. Je crois en général que ce n'est pas une mauvaise chose. Seulement, je crois que ensemble, bon, ce sont plusieurs acteurs qui sont concernés. Ce sont les privés, c'est l'État. Et ensemble, il doit y avoir des programmes, je dirais, pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui doit terminer le lycée à tout prix qui doit terminer l'université à tout prix. En prenant l'exemple de l'économie en Allemagne, il y a pas mal de chemins à prendre. Donc le défi, je crois, c'est plutôt de créer des opportunités pour chaque jeune. Soit il termine après la 9e année, ou après le lycée, ou après l'université. Il faut qu'il y ait des opportunités de gagner sa vie, de faire un bon travail, d'avoir cette opportunité.
Votre association travaille dans un pays, on le disait, qui a connu de graves crises. Est-ce que c'est facile pour vous de travailler justement dans ce contexte de crise aussi, à la fois politique, je dirais même humanitaire?
Bon, d'abord, avec la politique, on n'a rien à voir. Bien sûr, on collabore avec les différents ministères de toutes les sections. Il y a des ministères de l'éducation, de la santé, etc. On est en contact, ils reçoivent les rapports, ils viennent aussi pour faire leurs constats. Il y a des agréments officiels et tout. Ce qui nous touche, bien sûr, ce sont des conséquences. Il y a des réfugiés de l'époque qui sont rapatriés, qui viennent, qui ont besoin de nos quatre mots, qui ont besoin d'une place à l'école. Il y a actuellement, par exemple, le conflit entre le Burundi et le Rwanda qui a conduit à la fermeture de la frontière.
Des frontières
communes. Ce qui ne nous affecte pas directement, mais on travaille avec des agriculteurs au nord du Burundi qui, et eux, à leur tour, ils sont touchés par ça. Bon, c'est pas du tout facile de travailler dans ce contexte, mais c'est non plus impossible. Et je dirais, le plus qu'il y a des difficultés, le plus nous avons, disons, raison d'assister les gens dans les différentes situations.
En tenant compte justement de ces difficultés, des conditions de vie actuelles, de la hausse notamment des prix des produits de première nécessité au Burundi, est-ce que les enfants sont prêts à suivre efficacement leur éducation? Est-ce que ce n'est pas aussi un chemin difficile justement pour ces enfants-là, issus de familles pauvres, par exemple?
Très, très difficile. Bien sûr, il y a des enfants qui doivent marcher des kilomètres pour arriver à l'école. Ils le font quand même parce qu'ils savent que c'est la chance d'avoir la place là-bas. Et c'est pourquoi les écoles avec un internat sont très, très, très sollicitées par les parents, parce qu'ils savent que dans les internats, habituellement, il y a un bon encadrement, il y a assez de repas. Mais ça, encore une fois, ça demande des moyens.
On le sait, le taux d'abandon scolaire en primaire, par exemple, au Burundi est passé, selon les chiffres officiels, de 10,4% à 15,1% entre 2015 et 2016. C'est la période où le pays a connu une grave crise politique, je le disais en introduction de cette émission, soit dès la fin donc du premier cycle de 9 ans. Comment expliquez-vous cet état de fait?
Il y avait cette crise politique au Burundi et rapidement, il y avait des conséquences au niveau politique international. Il y avait une certaine isolation. Il y a l'Union européenne qui stoppait l'aide humanitaire. Il y avait les États-Unis, je crois aussi. Donc tout ça, ça avait un impact tout de suite. Et comme déjà dit, il y a beaucoup de familles qui font tout le nécessaire, qui vendent même le bétail pour avoir l'argent pour l'école, pour l'enfant. Et à ce moment-là, si les prix montent et tout, la vie devient chère, les enfants restent à la maison pour aider et au lieu d'aller à l'école.
Oui, alors il y a des difficultés financières auxquelles sont confrontés les parents d'élèves pour financer l'éducation de leurs enfants, mais il y a aussi, on le disait, entre autres les maigres salaires, par exemple, des enseignants, l'insuffisance des équipements pédagogiques, les classes qui sont surchargées au Burundi. Est-ce que ces éléments ne sont-ils pas aussi de nature à fragiliser le système éducatif du pays?
Absolument, absolument. Mais il faut jamais oublier que le Burundi a traversé une longue crise avant.
Il y a eu la guerre civile.
Exact, c'est ça. Exactement. On parle toujours de 2015, mais le Burundi a connu une longue guerre depuis 1993. Et le dernier groupe rebelle a rendu les armes en 2008. Donc c'est une période de 15 ans qui a mis à genoux le pays et surtout aussi un système scolaire. Donc il y a trop peu d'écoles, mais beaucoup d'enfants qui veulent aller et qui ont la chance d'aller à l'école parce qu'après la guerre, ce qui était nouveau, c'est que c'était la gratuité de l'école primaire. Donc chaque enfant devait avoir accès à une place à l'école, mais il y en avait trop peu et trop peu d'enseignants. Donc tout ça, c'est encore en développement, je dirais. Et tout ça, ça prend du temps.
Ça prend du temps. Je rappelle que le Burundi est l'un des plus petits pays d'Afrique où environ 110% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Merci beaucoup, Philippe Tsitsa. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Merci d'avoir accepté notre invitation ici à la Deutsche Welle. Je vous souhaite beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de chance à votre organisation Burundi Kids qui aide, je précise, les enfants burundais au Burundi pour avoir un avenir, un meilleur avenir dans leur propre pays par l'éducation, mais aussi par la promotion des droits humains. Merci beaucoup et à très très vite.
Merci beaucoup. Tepe tepe, senta kula. Asini ache, sisiki enjala. Nini sema, wacha wacha, mina chuka.
Sipende maneno,
mina chuka. Yeah.